Merci beaucoup à nos deux intervenantes pour d'abord cette synthèse très large et puis après cette étude très précise qui montre bien que l'histoire travaille dans plusieurs dimensions et à plusieurs échelles, réfléchit les mêmes objets de manière différente. L'idée, c'est qu'on a déjà beaucoup abusé de votre temps, si j'allais dire, donc il nous tardait aussi de lancer tout simplement la discussion. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur ce qui vous a été proposé, de nous interpeller, le tout évidemment dans les règles de l'art et avec le micro pour que ces échanges soient enregistrés. Et comme ça, ça nous permettra de lancer la discussion au fil de l'eau.
Je voudrais dire juste un mot sur ce qui a constitué un appel dans notre région ici, un appel à l'intégration des gens venus de l'extérieur et notamment à l'époque certains Italiens et certains Espagnols. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu, quand on regarde les monuments aux morts de notre région, on constate qu'il y a eu un déficit phénoménal d'hommes en âge de vivre et de former des familles et d'avoir des enfants, un déficit phénoménal. Et que par conséquent, ces forces vives masculines qui faisaient des fois la campagne ont été un moyen d'appel considérable. D'autant que parmi ces morts, il n'y a pas que ceux qui sont sur le monument aux morts, il y a ceux qui sont morts de la grippe espagnole et qui, particulièrement épuisés par la guerre qui avait précédé, ont été assez nombreux. La grippe espagnole a été quelque chose de caractéristique dans la disparition des forces vives. Voilà.
Je regrettais un peu, Geneviève, que tu nous donnes une telle vision, surtout du camp de Sécon, parce que ce n'était pas c'était des combattants qui étaient là et puis qui ont dû continuer à combattre. Il me semble que ce n'était pas à mettre avec les problèmes de l'intégration des familles. Et d'ailleurs, pour ne pas que tu me reproches mon reproche, je suis partie en Belgique sans ma famille, évidemment, avec ce groupe d'enfants, mais ma famille a été recueillie ici dans des endroits où elles sont restées 1 an, 2 ans, 3 ans. Les mères et les enfants après ont été répartis dans des municipalités où on les accueillait, tout ça. Donc moi je n'ai pas cette vue sur le camp de Sept-Fonds seulement, hein, qui était comme ça, mais d'un véritable accueil qui après sont restés là. Emma est issue d'une famille qui n'a pas été nécessairement cette fond et où les enfants ont continué à vivre comme ça. Donc c'était une histoire qui me semblait un peu hors du système d'accueil de réfugiés comme ça, voilà.
Tu as raison, Marie, oui, mais je devais parler du camp de Sept-Fonds. Et le camp de Sept-Fonds a concerné quand même quelques milliers d'hommes, et puis à un certain moment aussi de femmes et d'enfants. Et effectivement, ce n'est pas une histoire très gaie, mais il y a tout ce processus d'intégration de nombreux Espagnols dans la région qui est important et qui se fait souvent à partir du camp, hein, par le travail, effectivement, quand ils ont la possibilité de partir travailler en dehors. J'ai cité l'exemple de Luis Isaac Casares. Effectivement, il va à Fumel, il a passé toute sa vie professionnelle, il a participé à la résistance, sa famille y habite. Et il n'est pas le seul, il y en a plein dans le Lot-et-Garonne, mais on pourrait citer plein d'autres exemples dans d'autres régions, bien sûr. Et il y a les femmes et les enfants, mais là il se trouve qu'il y avait essentiellement des hommes.
Oui, bonjour. J'aimerais poser comme question par rapport aux flux migratoires. On a parlé beaucoup des flux migratoires des pays très lointains. Mais au sein de l'Europe, on a quand même un phénomène très spécial des Roumains, par exemple, qui actuellement viennent travailler en France, mais nous expliquent que c'est parce qu'il y a beaucoup de corruption dans leur pays. Comment vous l'analysez, vous, et comment vous intitulez cette migration qui est quand même importante, en tout cas sur notre territoire?
Alors là, on est dans des phénomènes beaucoup plus récents, hein, auxquels je suis presque pas arrivée, puisque à la fin, c'était plus écourté, si vous voulez. Effectivement, bah, c'est ces migrations de Rome, qui sont des migrations donc, qui ont vraiment pris de l'importance après la chute du bloc de l'Est, sans avoir démarré à ce moment-là, hein, parce que en fait l'antériorité, c'est surtout le cas des Roms de Yougoslavie, hein, où il y a aussi des groupes Roms qui la Yougoslavie a la particularité d'avoir été un pays communiste, mais avec le régime titiste qui n'était pas dans le cadre général. Tito avait compris précocement l'intérêt de laisser partir une partie de la population en émigration pour avoir des rentrées monétaires, notamment, hein, dues aux importants transferts d'argent qui marquent tous les phénomènes migratoires d'ailleurs, hein. Il y a toujours une espèce de rapport économique au pays d'origine qui est très important. Et donc, il y a eu des populations déjà issues de ces territoires, Roms, dès les années 70, par exemple, antérieurement. Mais ensuite, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu monter en puissance plutôt dans les années, à la fin des années 90 et 2000. Et ces Roms, ils sont dans cette situation de fuir à la fois une condition sociale inférieure, des discriminations multiples, et puis effectivement des régimes qui peuvent être corrompus, c'est une migration qui a des raisons multiples en fait, alors que le regard qui est porté dessus est extrêmement à la fois stigmatisant en France et univoque en fait. Et d'ailleurs, on les assimile aux gens du voyage par une complète erreur en fait de regard, hein, puisque ce sont pas avant tout des nomades, des gens qui cherchent à circuler, mais ce sont des gens qui cherchent à avoir une migration, soit pour trouver un lieu meilleur pour leur vie, pour l'éducation de leurs enfants, etc. Ils sont dans une démarche migratoire, comme bien des migrants qui cherchent par ce moyen à vivre dans une société plus ouverte, plus démocratique éventuellement, ou en tout cas plus avec des normes plus claires, et aussi où leur parcours social pourra être meilleur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est...
On a jamais fini. Avant de donner la parole pour une question de Michel Ferrer, je voudrais poser ma question, qui était la question implicite dans le programme du documentaire. On a regroupé des migrants anciens et des migrants actuels. Et vous n'êtes pas obligé d'y répondre tout de suite, mais si vous apportez des éléments de réponse, ça nous sera utile. Comment vous voyez la rupture ou au contraire la continuité? Voilà, j'insiste pas plus.
Vous avez parlé des réfugiés étrangers, mais il y avait aussi des réfugiés à l'intérieur de l'Hexagone. Et je voudrais apporter donc une précision aux Saint-Antoninois. Nous avons reçu à Saint-Antonin, en 39, un peu après le début de la guerre, 4500 réfugiés qui venaient de l'Est. Et les Saint-Antoninois doivent connaître sans doute Yolande Odoui. Il faut savoir que sa mère, Louise, est arrivée à cette époque-là et qu'elle s'est mariée ensuite avec Yves Odoui, notre coiffeur. C'est l'histoire locale. Il faut savoir aussi, alors là je pars sur le territoire des étrangers, dans le truc des étrangers, nous avons reçu à Saint-Antonin 1500 Belges. C'est pas rien. À Rehoboth, dernièrement, nous avons reçu quelques dizaines de réfugiés venant d'un peu partout. Quand on parle de 1500 ou de 4500, c'est autre chose. Voilà.
Oui, vous avez raison. Cette question de la dimension des flux, elle est quand même importante, hein, parce que quand on voit le niveau d'hystérie aujourd'hui de quoi on parle, alors qu'il faut le redire, aujourd'hui la France accueille peu, hein, par rapport à la situation, et pourtant on a l'impression que, et mal bien sûr, mais on a l'impression que se déverse sur nous, enfin la construction médiatique et dans certains discours publics de ce qui se passe est complètement déphasée par rapport à la réalité des choses. La retirade reste quand même quelque chose. On le dit, oui, 500 000 en 3 semaines à la frontière, mais quand même, quand on réfléchit 5 minutes à ce que ça veut dire, hein, aujourd'hui, ça nous mettrait en situation de panique organisationnelle complète. Hein. Et même l'exode, vous avez raison, c'est pas que les étrangers. Voilà, il y a eu l'exode, hein, ce qu'on appelle le grand exode hein, en 40. Et bien, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je me demande si on serait capable de gérer, tout simplement. Ça fait penser à. Enfin, il faut s'interroger sur la résilience de nos sociétés. Nos sociétés sont hyper riches par rapport à l'époque, hyper technicienne, hyper avancée, si on veut employer ces termes. Enfin, on a plein de procédures, de normes, de. Pour tout, mais est-ce qu'on serait capable de faire face à un flux d'exode brutal de ce type qui a été métabolisé en quelque sorte? C'est-à-dire, moi j'emploie souvent l'image de la vague sur le sable. Hein. Alors bien sûr, les gens qui ont connu l'exode racontent que c'était terrible, on a dormi dans les fossés, on a perdu la mémé qui s'est retrouvée toute seule, enfin bon, c'est la panique, évidemment. Mais en même temps, malgré tout, les gens ont mangé, globalement les gens ont été accueillis et même beaucoup se souviennent surtout de la solidarité à l'époque et d'une organisation qui était au niveau micro-local interpersonnel. Et ce, alors qu'aujourd'hui, on est souvent dans des grands dispositifs, extrêmement des espèces de machines qui gèrent l'accueil pour du bien parfois, mais aussi avec d'énormes dysfonctionnements ou effets pervers induits aussi sur la mise à distance de l'autre qui est de plus en plus objectivée, en fait, traitée finalement comme un numéro. Bon, on entre dans d'autres considérations, mais quand même. Alors, sur votre question immense, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Rupture et continuité, universalité du phénomène et spécificité, soit de la période, soit du flux considéré, soit. En fait, il y a les deux. Hein, je crois que c'est ce qu'on dit tous d'une certaine manière. Mais et votre documentaire le montre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait partageable dans l'expérience vécue. L'expérience de devoir partir, de laisser ses attaches, de s'adapter à une autre réalité, de faire ce voyage qui est toujours complexe, ces voyages ou ces mobilités, de devoir être dans une autre société, expérimenter les nouvelles attaches qu'on y crée, expérimenter l'entre-deux que ça crée ou l'entre plusieurs, enfin la diversité d'appartenance qu'on peut construire autour de ça. Enfin, toutes ces choses-là sont, je pense, absolument partageable, c'est-à-dire à chaque fois absolument singulière et aussi absolument partageable. Et du coup, le critère de nationalité dans ce cadre-là, il n'est qu'un critère parmi d'autres. Effectivement, des Parisiens transplantés ici, ou au contraire des provinciaux qui montaient à une époque à la grande ville, peuvent être pris dans des réalités tout à fait comparables. Et bien sûr, au XIXe siècle, les premières migrations d'étrangers, finalement, même s'ils étaient de nationalité française, c'était tous ces provinciaux qui partaient à la capitale, mais qui, par leur langue, par leur mode de vie, et les historiens ou ceux qui font de l'anthropologie historique, les analysent à partir exactement des mêmes, des mêmes outils intellectuels. Ils étudient leur endogamie, leur tendance à se regrouper par quartier, tout simplement pour s'entraider, donc pour faire communauté, mais aussi comme une espèce d'espace de construction, non pas d'un entre-soi fermé, mais de réseaux de relations qui sont constructifs et qui créent aussi du lien avec la société environnante. En fait, tout ça est très complexe. Bon, Mathieu en parlerait beaucoup mieux que moi, parce qu'il a travaillé ça vraiment avec un grand soin, mais voilà. Et en même temps, oh, c'est le mot qu'il ne faut plus employer, enfin, et par ailleurs, il ne faut pas non plus réduire la spécificité, par exemple, de chaque période historique. Souvent, quand les gens posent ce genre de questions en conférence, parfois, c'est avec un peu une idée derrière la tête, et des fois, ça émerge quand même dans la conversation, c'est dire, oui, mais quand même, avant, ils étaient ceci, ils étaient ceci, aujourd'hui, ils sont, etc. Et parfois, il y a une espèce de comparaison passé-présent portant sur le migrant lui-même, comme si ceux d'autrefois, ils se sont bien intégrés, c'était plus facile, ceux d'aujourd'hui, quand même, ça pose plus de problèmes et ils sont différents. Alors, peut-être, mais en même temps, ce qu'on oublie dans ce genre de raisonnement, c'est que la société française était complètement différente. Enfin, complètement différente, là, non plus. C'est pas tout à fait différent.
Elle a bien changé, oui.
Voilà, on ne s'intègre pas de la même manière à une société rurale, très rurale, si on est dans un cadre villageois ou si on est dans un cadre urbain, si on est soumis à une société qui est très normative, comme elle l'est largement en France, avec une inculcation d'un modèle culturel très fort par rapport à d'autres sociétés qui laissent plus vivre la différence portée par les migrants. Hein, ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'un est plus oppressif que l'autre, mais ce n'est pas le même régime en fait de rapport à autrui. Vous voyez, et chaque fois, il y a cette particularité du cadre social. Hein. du cadre social qui est extrêmement important, qui n'est pas forcément le même à la fin du 19e siècle, dans les années 20, aujourd'hui, etc., etc. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Et du coup, si les choses se passent différemment, il ne faut pas juste le renvoyer aux migrants eux-mêmes, mais à ce qui fait société chez nous. Et c'est aussi une manière de se poser la question de comment on veut vivre en société. Parce que le reflet que nous tendent les migrants, c'est aussi le reflet de notre projet à vivre ensemble. Et souvent, je pense qu'il ne faut pas regarder uniquement dans le rétroviseur, on parle beaucoup de la mémoire, c'est bien, hein, mais en même temps, il faut regarder vers le devenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, comment on veut construire une société. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui, s'il y a toutes ces... Alors, je quitte ma casquette d'historienne, hein, là, je parle... Voilà, c'est le café du commerce comme une citoyenne, comme chacun d'entre nous, mais c'est mon opinion quand même. Je pense que les crispations d'aujourd'hui viennent beaucoup du fait qu'on n'a pas un projet fort pour savoir comment on veut vivre ensemble dans l'avenir et surtout faire face à des problèmes énormes qui sont devant nous. L'immigration, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème pour demain. Enfin, problème, le mot est trop connoté, mais c'est une réalité énorme pour demain. Et elle a aussi à voir avec un monde en transformation, hein, qui est soumis à une globalisation généralisée, qui est soumis maintenant à des effets écologiques qu'il va falloir gérer, qui vont être de plus en plus difficiles. Et donc, ça demande, ce monde de migration d'aujourd'hui, de construire un autre projet.
Dans la façon dont notre société reçoit les migrants, il y a une question à se poser. J'ai pu constater à diverses reprises que les anciens migrants, il paraît qu'il y en a un sur quatre dans le peuple français, les anciens migrants ont tendance à vouloir fermer la porte derrière eux et à ignorer à ce moment-là qu'ils ont été des migrants ou des fils de migrants. Et c'est une réaction qui est extrêmement répandue. Et ça alimente le Front National notamment. J'ai le souvenir, il est caricatural, lorsque j'ai fait mon service militaire à Toulouse dans la section cadrère, il y avait une manifestation dans la rue, c'était, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, c'était une manifestation d'ordre populaire à laquelle étaient mélangés des étrangers. Et le lieutenant qui était là, qui était à la fenêtre, a dit, c'est quand même phénoménal que ces gens défilent, ils viennent bouffer, mais textuellement, le pain des Français. C'est tellement caricatural qu'on ose à peine le raconter. Et comme... il avait un nom espagnol, je lui ai dit, mon lieutenant, avec le nom que vous avez, je me dispenserai de tenir ces propos-là. Et j'ai été très très mal vu.
Oui, moi c'est une question un peu terre à terre, mais vous parliez tout à l'heure de migration des années 30, et en disant qu'elles étaient surtout à un taux de natalité très faible dans la région, et je voulais savoir pourquoi en Bretagne et en Vendée, on faisait plus d'enfants que dans le sud-ouest, est-ce qu'il y avait une raison économique, enfin, je ne sais pas.
Et oui, c'est un questionnement assez complexe, effectivement, en histoire. Hein, pourquoi la France, globalement, a été un pays de moindre dynamisme démographique? Pourquoi certaines régions ou certaines zones en particulier ont été plus touchées encore par ce phénomène, et alors que d'autres sont restées des relatifs bastions de natalité, hein, souvent quand même pas comparables à ce qu'on voyait en Italie du Sud ou dans d'autres régions, mais malgré tout. Alors, il y a plusieurs causes à ça. Effectivement, il y a des causes... Enfin, ce sont des causes essentiellement culturelles, bien sûr, mais de différents niveaux. Il y a des causes qu'on peut qualifier d'idéologiques, en tout cas de l'encadrement, et notamment de l'encadrement religieux. Hein. La déchristianisation était plus marquée dans le Sud-Ouest. Hein. Il suffit de regarder dans les années 20... un certain nombre, enfin, d'ouvrir des journaux catholiques comme la Croix du Midi, hein, qui était un journal catholique très conservateur et aussi d'ailleurs assez xénophobe et ouvertement antisémite par ailleurs, hein, qui se plaignent à longueur de colonne du fait que il y a des mauvaises pratiques, les gens, enfin voilà, les hommes en tout cas, on les voit plus du tout dans les églises, les femmes assez peu, et donc tout ça se distend finalement et bon, les gens font avec un moindre poids, finalement, de la norme nataliste de l'Église. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a des facteurs plus anthropologiques encore sur le rapport, notamment, à la propriété, à l'héritage. Hein, le fait que la Révolution française ait normalisé le rapport à l'héritage, en supprimant notamment le droit d'aînesse, dans certaines régions, ça allait vraiment à l'encontre d'une idée très, très, très profonde qu'il fallait sauvegarder la maison, le domaine, même si c'était quelque chose de tout petit, chez des micro-paysans. Hein. Et ça, ça a conduit précocement, notamment ici dans les populations rurales aussi, à limiter le nombre des héritiers pour qu'il n'y ait pas de division de l'héritage. On dédommageait la fille et puis un enfant. Regarde. Il y a des choses assez cocasses hein, dans la presse des années 20. On voit ceux qui sont natalistes, parce qu'il y a un lobby nataliste important qui se développe en France dès la fin du 19e siècle et en particulier encore dans les années 20, etc. Bon, ils échoueront hein, à redresser la natalité, mais en fait, etc. Et ils dénoncent le fait que circulent des logiques de stigmatisation des hommes qui ne savent pas se contenir. Hein. On dit on les moque parce que ce sont des gros bénés, en gros, qui ne savent pas pratiquer le coït interrompu, qui est la méthode dominante à cette époque-là. Hein. Donc, vous voyez, il y a une sorte de norme sociale, en fait, au fait de contrôler sa natalité pour rester maître chez soi et avoir, finalement, une meilleure transmission des biens. Bon. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je vois ces deux-là.
On pourrait continuer. Moi, à votre première remarque, je poserais que la France du XVIIIe siècle, qui était le siècle des Lumières, a été un siècle de démographie galopante.
Les Lumières, c'est plus compliqué et c'est un autre niveau de transfert dans la population, si vous voulez, hein, je pense. Hein.
C'est bon, si notre énergie est terminée, je voudrais vous remercier d'abord. Vous avez préparé, travaillé et présenté trois visages de l'histoire telle qu'on peut la pratiquer. Vous étiez très complémentaires dans vos interventions et c'était très, très intéressant pour nous en contrepoint du film du début. Je voudrais inviter ceux qui sont encore là, s'ils ne l'ont pas encore fait, à dévaliser l'antenne locale de la librairie du Tracteur Savant, qui est pleine d'ouvrages très intéressants que vous connaissez peut-être déjà, mais qui peuvent encore être, que vous pouvez vous procurer ici. Aurèle est venue pour ça. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine conférence qu'on fera dans 15 jours sur un sujet complètement différent. On va venir parler du patrimoine rural, des maisons du patrimoine rural. C'est un sujet tout à fait différent. Voilà, merci, bonne soirée et merci de nous avoir accompagnés si tard.